La République démocratique du Congo est suspendue pour une année des litiés suite à la non-traçabilité de 88 millions de dollars américains payés par les industries minières du Katanga en 2010 à la DGRAD Kinshasa. 24 avril 1990, 24 avril 2013, il y a de cela 23 ans que le maréchal Mobutu a annoncé la démocratisation du pays. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous aurons dans cette émission J.R. Mokolo, il est journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir J.R. Mokolo.
Bonsoir Guy Maté, merci beaucoup à Radio Capu pour l'invitation.
Ambroise Mamba, il est journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet aussi depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise Mamba.
Bonsoir Guy, bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Capu.
Et Thierry Mukelekele, journaliste à la radio-télévision Jedidia de Kambove au Katanga. Bonsoir Thierry Mukelekele.
Bonsoir JR et bonsoir à tous ceux-là qui sont autour de ta table et ceux-là qui interviennent.
C'est plutôt Guy Mata qui a la présentation.
Ah ok, merci.
La République démocratique du Congo suspendue des litiés. Quel bilan peut-on dresser de la démocratisation de la RDC 23 ans après le déclenchement de ces processus? Écoutons cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak.
Bonsoir. La revue de presse de ce jour s'ouvre avec le journal La Prospérité qui est revenu sur la date historique du 24 avril 1990 où le pays avait entamé le processus de la démocratisation avec le maréchal Joseph Désiré Mobutu. Le tabloïd indique que 23 ans après l'adoption de cette nouvelle manière de conduire les affaires de l'État, le pays semble boitillant dans sa marche vers la démocratie concrète au-delà de celle des textes. Selon la prospérité, le spectre de la démocratie hante toujours le pays, malgré notamment les deux élections plurielles de 2006 et 2011. La tempête des tropiques de son côté, appelant cet événement, parle de 23 ans d'une démocratie de façade. Comme lors des règnes de Mobutu et de Laurent Désiré Kabila, le Congo aujourd'hui dirigé par Joseph Kabila fait un retour dangereux vers le passé unique. Sur un autre registre, RadioCapu.net rapporte que la RDC a été suspendue pour un an de l'initiative pour la transparence des industries extractives, une organisation qui encourage la transparence des revenus dans les secteurs miniers et pétroliers. Selon ce média, Bavon Samputu, ministre de l'Environnement et deuxième vice-président du comité exécutif de l'ITIE RDC, cette suspension temporaire est due en partie à la non-traçabilité de 88 millions de dollars américains payés par les industries minières du Katanga en 2010 à la DGRAD Kinshasa. Pour la tempête des tropiques, la société civile crie à la colère suite à cette suspension. Le potentiel positivant la situation estime que la suspension temporaire de la RDC quant à son statut est une opportunité et pas une sanction qui nous permet de pouvoir améliorer la mise en œuvre du processus.
Merci Samuel Kachak, J.R. Mokolo. On va commenter l'actualité de cette semaine. Je rappelle que vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision. C'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et l'actualité, c'est aussi l'arrêt de la Cour suprême de justice qui confirme Jean Gontra Ibambe dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Oui, ça a été vraiment une très très bonne nouvelle pour les Équatoriens et surtout pour tous les Congolais qui s'intéressent vraiment à la vie politique dans cette province-là. Vous savez, une province pratiquement qui est devenue la risée de toute la RDC, la lanterne rouge en termes de développement, en termes même de fonctionnement de la démocratie. Et c'était une décision importante parce que c'est de cet arrêt-là qui dépendait pratiquement l'organisation des élections pour les nouveaux gouverneurs de la province de l'Équateur. Aussi longtemps qu'on devait avoir ce bicéphalisme au sommet de l'Assemblée provinciale, donc il n'était pas possible, même si on mettait de millions, pas possible qu'on organise des élections. C'est une bonne chose. Et espérons que demain, quand on va élire ces gouverneurs-là et que la crise va définitivement, en tout cas, appartenir au passé, mais beaucoup d'Équatoriens qui aiment leur province croient et espèrent que avec la prolongation, par exemple, du délai de dépôt de candidature, les uns, les autres, les états-majors politiques vont se mettre d'accord pour pouvoir avoir un candidat de consensus pour que cette élection-là ne ressemble pas, en tout cas, à une bataille. Parce que si les gens vont encore se rentrer dedans, nous risquons, après cette élection, d'assister à des contestations et à des tiraillements qui risquent encore de retarder pour longtemps le développement de cette province-là et le redressement de l'Équateur.
Merci Ambroise Mamba. Je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Jean Gontra Ibambe, reconnu comme président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, peut-on parler de la fin de la crise qui a paralysé cette institution provinciale?
Bon, la fin sur le plan judiciaire, justement, parce que là, il a vraiment les quitus de
dans les
de
faits
la haute cour.
Et dans les faits
dans les faits, moi, je connais pas très bien la situation, mais je pense que les députés provinciaux pourront peut-être réagir prochainement. Mais le plus important pour moi ici, c'est on a répondu pratiquement à mon inquiétude. Et j'étais inquiet par rapport au bureau qui allait organiser les élections du nouveau gouverneur. Et là, j'ai maintenant la réponse. Et le plus important, c'est que les députés provinciaux doivent cesser de dépendre tout le temps de Kinshasa, parce qu'on dirait que la crise venait de la capitale et non de la province elle-même. Et s'ils dépendent plus de Kinshasa, là, ils vont s'étayer un chemin vers la démocratie et puis faire que cette province puisse se développer. Puisque, vous voyez, comme l'a dit J.R. tout à l'heure, c'est une province qui est presque la risée de tout le monde. Et on est presque dans les crises politiques qui se perpétuent et puis on ne sait pas se concentrer sur l'essentiel. Et je suis très content de cet arrêt de la Cour suprême de justice.
Thierry Mukelekele, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision Jedidia de Kambove au Katanga. Un mot par rapport à cet arrêt de la Cour suprême de justice qui a confirmé Jean Gontra Ibambe dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Bien, pour ne pas nous répéter comme mes prédécesseurs, moi j'ouvre une brèche en disant quand même félicitations à cette Cour-là qui va au moins dans le sens de montrer qu'il y a une certaine indépendance dans la gestion de la chose juridique. Et puis, le tout dernier intervenant a rappelé que la crise pouvait entacher l'élection du futur gouverneur. C'est réel. Et cette histoire de dépendre de Kinshasa, je pense que c'est une histoire psychologique. Apparemment, beaucoup de nos politiciens ne lisent pas suffisamment la Constitution pour comprendre le sens élevé de la décentralisation. Parce que si on va dans ce sens-là, je pense que les différentes provinces s'autogéreraient bien dans le respect des normes constitutionnelles et dans le respect du pouvoir central. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir central agit comme dans le système de la Deuxième République. Ça dit que quoi qu'il y a des assemblées qui ont été votées par les populations, mais ces assemblées n'ont rien à dire vis-à-vis du pouvoir central. C'est ce qui est un peu aberrant et dommage. Mais nous encourageons le président et nous espérons qu'il n'y aura pas de crise pour que nos frères de l'autre côté puissent vivre quand même un temps et passer à la reconstruction.
Thierry Mukelekele, vous êtes à Kambove, au Katanga. Et quelle est l'actualité à la une dans ce territoire de Kambove?
Bien, chez nous, c'est la crise qui a frappé tout récemment. Là, d'abord avec cette histoire des farines qui a pris de l'ascenseur. Merci au gouverneur avec son mouvement. Ces milliers de sacs de farine qu'il a renvoyés vers le centre de Lubumbashi. Mais nous attendons justement les retombées parce que à Lubumbashi, j'ai laissé le sac entre 17 et 18. Mais ici à Kambove, au moment où nous vous parlons, le sac varie entre 25 et 30 000 francs. Donc les effets de Lubumbashi n'ont pas encore atteint le coin de Kambove sur le plan finalement du panier de la ménagère parce que vous savez, au Katanga, sans le Bunga, vous n'êtes pas vraiment Katangais. Okay. Donc nous allons insister auprès des autorités provinciales de voir vers l'Ikasi pour approvisionner Kambove, Kakanda et un peu plus loin là vers Fungurume.
Merci. Nous abordons notre premier thème de ce soir. La République démocratique du Congo est suspendue pour une année des litiés suite à la non-traçabilité des 88 millions de dollars américains payés par les industries minières du Katanga en 2010 à la DGRAD Kinshasa. Suspension de la RDC de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIA en sigle. La non-traçabilité des 88 millions de dollars dollars américains au niveau de la DGRAD Kinshasa payée par les industries minières du Katanga en 2010 en est une des causes. Affirmation faite le week-end dernier à Kinshasa par le ministre de l'Environnement qui est aussi deuxième vice-président du comité exécutif des litiers RDC. Dans une interview à Radio Okapi, Bavon Sampoutou souligne que le comité exécutif des litiers RDC a pris acte de cette suspension et a promis d'améliorer les processus itiers au cours du délai lui imparti jusqu'au 17 avril 2014. Michel Kifindangoy.
La suspension du statut de la RDC à l'initiative pour la transparence des industries extractives itiers est due notamment au manque de traçabilité de certaines taxes payées par les entreprises extractives aux régies financières. Pour le ministre de l'Environnement, les 88 millions de dollars non traçabilisés au niveau de la DGRAD est l'une des causes de cette suspension. Bavon Sampoutou.
Au niveau du comité exécutif, il est effectivement démontré qu'il y a 88 millions qui flottent, qui ne sont pas retracés entre les opérateurs économiques miniers et les services de l'État censés assurer les recouvrements.
Cette suspension a un impact négatif sur l'image et la notoriété de la RDC au niveau international, a affirmé Bavon Sampoutou, deuxième vice-président du comité exécutif des litiers.
Nous perdons en termes de prestige national et international, mais concrètement, c'est juste un recalage. Je prends les cas d'un étudiant qui a 85%, mais qui, avec deux échecs graves, est recalé. Aller pour la deuxième session. C'est l'image que représente le pays aujourd'hui.
Pour pérenniser la mise en œuvre des litiers en RDC, le comité exécutif promet la mise en place d'un plan d'action et la publication du rapport 2011 avant le 31 décembre de cette année.
J.R. Mokolo, la RDC suspendue des litiers à cause de la non-traçabilité des 88 millions de dollars américains payés par les industries minières du Katanga à la DGRAD de Kinshasa en 2010.
Bon, avant de pouvoir parler de ces 88 millions, je voudrais d'abord faire un petit rappel historique pourquoi on a créé l'ITIER. C'est entre autres à l'initiative de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. C'était parce qu'on s'était rendu compte que les sociétés occidentales qui venaient exploiter les richesses en Afrique, par exemple, épinglaient, dit, mais comment est-ce que vous exploitez ces richesses-là? Sûrement, vous gagnez de l'argent. Mais comment se fait-il que dans ces pays-là, des gens vivent dans la pauvreté? Donc, ce paradoxe-là des pays, par exemple, immensément riches comme les nôtres ici, avec une population très pauvre. En RDC ici, c'est pratiquement sous le gouvernement 1 plus 4. Qu'on a entamé cette initiative avec...
C'était en 2005, voilà, avec Jean-Pierre Bemba,
voilà, avec le vice-président en chef de l'Ecofine, Jean-Pierre Bemba, ça c'est la petite histoire. Et c'était, entre autres, pour pouvoir combattre la corruption, les détournements des deniers publics. Et c'est une bonne initiative dans notre gouvernement.
Et comment vous analysez la suspension de la RDC suite à la non-traçabilité de ces 88 millions de dollars américains?
Ce sont des règles du jeu. L'ITIER fonctionne avec des règles, déjà avec des principes. Si vous enfreignez un des principes de l'ITIER, vous devez subir des sanctions. C'est tout à fait normal que de l'argent qui est entré dans la caisse de l'État, et on ne sait pas retrouver ces traces, c'est tout à fait normal. Parce que l'ITIER, moi j'essaie un peu de parcourir beaucoup de rapports faits par l'ITIER, on se rend toujours compte que entre l'argent déclaré, payé à l'État par les entreprises extractives, et entre ce que les régies financières déclarent, certifient avoir reçu, il y a toujours un écart. Il y a toujours un écart. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit non, trop c'est trop, il faut quand même frapper pour faire en sorte que nous puissions nous inscrire dans la bonne gouvernance. Bon, le ministre de l'Environnement, qui est membre du comité de litiers, qui réagit, dit non, il compare un peu la RDC comme avec un élève. Moi, je me dis non, on ne peut pas quand même étudier au sommet de l'État. Si on est au sommet de l'État, on gouverne un pays, on doit fonctionner selon les règles de la bonne gouvernance que vous avez vous-même accepté et signé. Il ne faut pas dire que non, c'est comme un élève qui a eu 80% et qu'il est récalé pour la deuxième session. Cette comparaison-là, moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine parce que ça ridiculise notre pays.
Merci. Ambroise Mamba, publiez ce que vous payez, c'est le principe fondamental des litiers. En amont, c'est les entreprises qui publient ce qu'elles payent à l'État. Et en aval, c'est le gouvernement qui déclare ce qu'il a reçu. Et ici, les chiffres donnés par l'État congolais sont inférieurs à ceux fournis par les entreprises. Il y a un écart de 88 millions de dollars américains. Comment, à votre avis, on peut comprendre cela?
C'est clair. Il n'y a pas de transparence dans ce secteur-là. Cet argent, ce n'est pas l'argent des litieux, c'est l'argent de la RDC. C'est pour les trésors publics de la République démocratique du Congo. Et ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de transparence. Vous savez, on parle de l'exercice 2010. En 2010, le ministre des Finances de 2010, c'était Augustin Matata Ponyo, qui est actuellement Premier ministre. Et les régies financières sont sous tutelle du ministre des Finances. Donc à l'époque, c'est lui qui gérait encore secteur. Donc c'est quand même une honte pour celui qu'on appelle homme de la rigueur que dans ce secteur, il y ait quand même ce déficit de 88 millions de dollars. C'est-à-dire que les entreprises déclarent ce qu'ils ont payé et les régies financières déclarent ce qu'ils ont perçu. Et c'est là qu'on trouve ce déficit de 88 millions de dollars américains. C'est beaucoup d'argent. Imaginez-vous, cette suspension intervient quelques jours après un an de Matata Ponyo à la tête du gouvernement, qui venait de faire une communication à la presse, qui a vanté ses mérites en ce qui concerne les cadrages macroéconomiques, et qui a vanté ses mérites en ce qui concerne la sécurité, ainsi de suite. Et quelques jours après, on est suspendu pour manque de transparence, pour manque de traçabilité. Imaginez-vous que si ces termes venaient de l'opposition, on aurait dit ce sont des opposants qui réagissent comme ça. On aurait dû minimiser. Là, le ministre de l'Environnement minimise pratiquement l'affaire et on ne veut pas dire qu'effectivement, il faut qu'on puisse se réveiller de ce côté-là pour qu'on puisse voir ce qu'il faut faire et frapper les auteurs qui ont peut-être détourné, qui ont détourné l'argent qui devait entrer dans la caisse de l'État. 90 millions de dollars, on peut réhabiliter beaucoup de kilomètres des routes avec cet argent. Mais quand on minimise pratiquement, j'ai suivi encore à la télévision quelqu'un qui disait et ce n'est pas 88 millions, c'est moins que ça. Donc ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a eu un détournement de cet argent et c'est entré dans les pour des individus. Et là, le Premier ministre qui est homme de la rigueur, je pense qu'il peut frapper à ce niveau, pour qu'on les croie finalement.
Merci Thierry Moukelekele. Selon le coordonnateur national de l'ITIE, il ne faudrait pas à ce stade parler des détournements, étant donné que les 88 millions de dollars sont en train d'être recherchés dans le système de la Banque centrale du Congo.
Bien, nous espérons qu'ils vont retrouver dans ce système-là. Là où le bât blesse avec le gouvernement congolais, c'est que on pense que le peuple congolais est très amorphe. Ici à Kambove, je pense que nous sommes parmi les personnes qui sont concernées par ces 88 millions. Parce que vous savez, ce territoire est en train de sortir d'importantes cargaisons de trac, de minerais, mais dont les services échappent à l'autorité parce que c'est Kinshasa. À partir de 2000 kilomètres, qui donne des instructions, qui donne des injonctions. Ça dit que le ministre ne peut pas prendre cette question à la légère et parler de négligence. Non, c'est une aberration. Pour nous, c'est très révoltant. Parce que vous savez, c'est parce que vous êtes très loin. La manière que la GECAMINE a laissé cette cité de territoire est aujourd'hui, après toutes ces années d'extraction dans les carrières et les mines, vous trouverez que les 88 millions de dollars là, c'est trop peu. Si nous rentrons en amont, avant que les Chinois n'arrivent, vers les années 2004 et 2005 jusqu'à ces jours, ça dit que ce sont des milliards de dollars que le Katanga a déjà perdu dans cette histoire-là. Moi, je pense que si on doit parler de la rigueur du Premier ministre, il devra se justifier devant le peuple et réellement poursuivre et punir tous ceux-là qui se retrouvent dans ces 88 millions. Nous encourageons les opérateurs du secteur minier. Ils doivent toujours avoir des documents parallèles pour donner quand même la vraie version à la population. Parce que vous savez, aujourd'hui, autrefois, il y avait un peu d'asphalte sur le tronçon Likasi-Kambove. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Quand vous venez chez nous, c'est dans toute la poussière du monde et on vous dit que nous sommes le territoire le plus riche du monde, mais ce sont des trucs dans une contradiction très controversée.
Merci.
Aussi, je voulais vous donner une précision. Comment expliquer aux territoires miniers comme le nôtre, qui regorge plusieurs sociétés en cette matière, mais à cette date, nous avons à peine 937 500 francs congolais de rétrocession, voyez-vous. Et ceci représente pratiquement rien, c'est un sabotage.
Merci.
Pratiquement dans le territoire, c'est un sabotage.
Merci Thierry Moukelekele, JR Mokolo. Selon toujours les coordonnateurs nationaux des litiers, ce n'est qu'une suspension temporaire. Et il affirme que si la RDC améliore les rapports 2010 ou publie un autre rapport, la RDC peut reprendre son statut de pays conforme.
Bon, je me dis, l'enjeu, c'est pas que la RDC retrouve sa place à litier. L'enjeu, c'est faire en sorte que ces paradoxes d'un pays immensement riche sur le plan des ressources naturelles et avec une population pauvre puissent quand même être réglés. Vous vous rendez compte, sous le maréchal Mobutu, on peut dire tout ce qu'on veut dire de Mobutu, mais c'est la Jekamine pratiquement qui apportait 80% dans les budgets de l'État. Voilà. Mais aujourd'hui, avec une production deux fois supérieure à ce qui était produit à l'époque de Marchand Mobutu, on voit seulement des miettes tomber, par exemple, dans les caisses de l'État. Mais il faut quand même qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'un pays comme la Libye, qui n'a que le pétrole, l'Algérie qui a le pétrole et le gaz, l'Arabie Saoudite qui a le pétrole, ces pays-là sont des pays prospères, avec une population prospère. Donc il va falloir que nous réfléchissions dans notre pays, voir dans quelle mesure exploiter nos ressources naturelles pour que l'État ait véritablement les moyens de sa politique. Non seulement on s'adonne à des contrats léonins qui bénéficient seulement aux investisseurs étrangers et qui sûrement, sous forme de sociétés grands avec des Congolais qui sont dedans, qui se remplissent poche avec des étrangers, mais le peu qui rentre dans la caisse de l'État, on ne sait pas retrouver 88 millions. On a vu des rapports de litiers avec des écarts, par exemple, depuis de 2 millions de dollars. Donc, il ne faut pas qu'on fasse un effort pour retrouver notre place à litier, mais il faut qu'on fasse seulement un effort, trouver un mécanisme pour faire en sorte que cette multiplicité d'entreprises d'exploitation minière dans les Katanga, partout ailleurs, qu'on puisse en arriver, par exemple, à un nombre assez réduit où l'exploitation permet à ce que le pays puisse avoir suffisamment de moyens. On a, par exemple, pour l'exploitation du pétrole avec l'Angola. C'est l'Angola qui bénéficie et nous, on ne gagne absolument rien. Et c'est pas normal qu'un pays immensement riche puisse manquer le moyen de sa politique. Prenons un peu l'exploitation forestière qui est même prise en charge aussi par litier. Vous vous rendez compte, il y a beaucoup de grognes à l'Équateur, dans les Badoundou, même dans en province orientale, qui est une population locale qui sont pratiquement privées de pouvoir exploiter leurs forêts, mais qui ne se retrouvent même pas. Et c'est la raison pour laquelle on assiste même à beaucoup de rébellions. Parce que les gens s'estiment qu'on vient exploiter chez nous, nous, on ne trouve pas notre compte.
Ambroise Mamba, toujours litier, qui l'a dit, si on n'arrive pas à retracer les 88 millions de dollars, et qu'il est établi qu'il y a eu détournement, le conseil exécutif de litier a décidé de saisir le procureur général de la République, donc il n'y aura pas impunité, il y aura des poursuites. Et je crois que c'est l'un des facteurs qui peuvent aider la RDC à prévenir ce genre de situation.
Oui, je voudrais croire s'il y aura des poursuites et puis punir les auteurs, puisque je n'ai vu encore jusqu'à là personne être puni pour avoir détourné, comme si on a établi l'impunité en mode de gestion de la RDC actuellement. On ne veut vraiment pas donner cette confiance à la population pour que la population croie encore à la lutte contre l'impunité, à la lutte contre la corruption, ainsi de suite. Et ça n'arrive toujours pas. Ici, on a donné une année pratiquement à la RDC pour devenir encore pays conforme, cette conformité. C'est de ça dont on parle. Il y a tout un système de concussion, ainsi de suite. Les opérateurs miniers qui étaient dernièrement en forum par rapport à la révision du code minier de 2002, ils ont constaté que cette suspension s'est revenue de la complexité du système fiscal de la RDC. Et ça veut dire qu'il y a un système fiscal qui est vraiment très complexe et cette traçabilité n'est pas possible, n'est pas facile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Matata Pognon a même pris la décision de prendre la tête de la directive pour faire cette traçabilité, pour suivre de près ce dossier, ainsi de suite. Mais est-ce qu'il va y arriver? C'est vraiment tout un système. Est-ce que pendant une année, vous savez que lorsqu'un joueur joue, et que pendant une année, il ne fait pas des entraînements, il a des difficultés. Et pendant une année, on ne sera pas avec lui. Et est-ce que pendant une année, on sera en mesure de pouvoir être conforme, suivre encore de près de dossier, et puis former des robinets? C'est là que se pose problème. Alors, on veut voir cette rigueur de Matata Pogno pour prouver à la face du monde qu'il est effectivement, qu'il est technocrate, il a la technicité, et qu'il peut arriver à donner à la RDC ce dont il a besoin. Il a promis, je vais vous rappeler, Matata Pogno a promis 45 milliards de budget pour les 5 ans. Et il a présenté deux budgets à l'Assemblée nationale, 2012 et 2013. Jusque-là, il nage dans les 13 milliards, tout simplement. Et il a même promis de pouvoir fermer les robinets par rapport aux 12 milliards de dollars qui se volatilisent, 12 à 15 milliards de dollars qui se volatilisent chaque année. Mais jusque-là, on ne sent pas de signes, il n'y a pas de signes.
Ambroise,
c'est vraiment regrettable.
Ambroise, il faut quand même reconnaître que la RDC a fourni beaucoup d'efforts, parce que selon Litier, sur les 20 conditions qui étaient imposées par Litier International, la RDC a rempli 15 sur les 20 conditions. Ça, je crois qu'il faut quand même saluer cela.
Bon, remplir et puis être suspendu, c'est vraiment paradoxal. Moi, mon problème, je vois la suspension, je ne vois pas les conditions que la RDC a remplies. Je vois la suspension avec, pour motif, le manque de transparence. C'est le plus important pour moi. Donc, si vous remplissez les conditions et que vous êtes en même temps suspendu, ça veut dire que vous n'avez rien fait, vous avez échoué.
Merci. Thierry Mukelekele, que faut-il faire pour prévenir ce genre de situation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la RDC ne perde plus son statut de pays conforme à l'étier?
Bien. Il est souhaitable d'abord qu'on respecte aussi les autorités établies localement, par toujours le pouvoir central. Je vais vous donner un petit exemple. La SNEL, avec Mwadingusha, donne du courant à la Zambie. Et depuis la création des territoires ici chez nous, ces coins-là ne sont pas électrifiés. Mais quand nous rentrons dans les entreprises qui traitent ici à Kambove, ces entreprises n'ont jamais honoré, moins encore réalisé les conditions conformément à ce code minier qu'on a évoqué tout à l'heure. Or, si ces entreprises-là rentrent d'abord dans le cadre de ce code minier, le plan d'atténuation et de réhabilitation pourra créer cette situation socio-économique et ça pourrait engager quelque chose pour la relève du territoire. Et puis, le confrère a évoqué un problème de guerre. Katakatanga et tout ce que vous entendez parler. Mais cette histoire des litieux, ça des corollaires, vous savez. Nous avons ici la carrière de Kassibisi, Kanfundwa, Kilelabalanda, c'est plusieurs carrières d'abord dans le territoire de Kambove. Et nous avons des milliers de Congolais qui vivent dans ces carrières-là. Mais quand ces milliers de Congolais ne sont plus concernés par la question de la chose publique, ça pour conséquence et corollaire, la naissance de tous ces jeunes gens-là que n'importe qui peut manipuler, pour faire ce qui se passe aujourd'hui autour de la ville de Lubumbashi et dans la ville de Lubumbashi, qui Merci. Est toujours sous menace.
Merci. Jérôme Colo, à votre avis, que faut-il faire pour que la RDC ne puisse plus perdre son statut de pays conforme? Il y a des experts qui ont réfléchi, je cite Michel Somoué, qui a dit qu'il faut chercher comment améliorer la collecte des données ici au Congo. Il faut une volonté politique de pouvoir sanctionner et il faut aussi insister sur la moralisation de la vie politique en République démocratique du Congo.
Et surtout, il faut faire en sorte que ceux qui gèrent l'État ne confondent pas en tout cas les caisses de l'État avec leurs propres poches. Parce que souvent, on vient dans la gestion de l'État, pas pour pouvoir servir, mais souvent pour se servir. Et les nominations qu'on fait à gauche, à droite, c'est souvent pour récompenser des applaudisseurs, des gens qui ont roulé à terre quand les chefs passaient. C'est un peu ça. Il faut prendre des gens qui ont quand même une bonne moralité, qui ont un minimum vital. Quand vous prenez un misérable, vous lui donnez un poste à la DGRA, je ne sais où, bon. C'est normal que cette personne-là puisse pouvoir améliorer sa santé financière. Et puis, il faut vraiment laisser tomber l'impunité. Le Premier ministre s'est félicité d'être le champion de la rigueur, tout ça, de la bonne gouvernance. Il semble même que les gens l'en veulent parce que il a fermé des robinets à gauche à droite, mais qu'il amène sa logique jusqu'au bout à pouvoir mettre un peu de l'ordre dans ces régies financières pour que ces gens-là, leur train de vie ne puisse pas quand même être 1000 fois au-delà de ce qu'ils gagnent à la fin du mois, parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui touche par exemple 500 dollars le voit en train de construire un immeuble de 5 niveaux, qui roule avec une Jeep de 5 000 dollars et sa femme et enfant qui sont en Europe et tout ça. Il faut quand même qu'on arrive quand même à vérifier l'origine d'enrichissement de tous ces fonctionnaires de l'État.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, 24 avril 1990, 24 avril 2013. Il y a de cela 23 ans que le maréchal Mobutu annonçait la démocratisation du pays. Ainsi, le 14 janvier 1990, à l'occasion de l'échange des vœux de Nouvel An, j'avais annoncé à mon peuple ma volonté d'organiser un large débat national sur le fonctionnement des institutions politiques de la Deuxième République. À ce sujet, j'ai sillonné toutes les régions du pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, empruntant tout le moyen de transport disponible. Je me suis mis à l'écoute de la majorité silencieuse. Ses interrogations, ses inquiétudes et ses aspirations ont retenu toute mon attention. On suit cet extrait du discours du maréchal Mobutu.
Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime réponse. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.
Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web, télévision, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Nous venons de suivre le maréchal Mobutu qui affirmait que face aux grandes mutations qui tourmentaient le monde, il avait estimé opportun de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique au Zaïre, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. 23 ans après ce discours, s'il faut établir le bilan du pluralisme politique, qu'est-ce que l'on peut dire?
23 ans après, c'est vraiment déplorable. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même des signes, il y a des journaux, il y a des télévisions, il y a des radios, ainsi de suite. Mais est-ce que la liberté d'expression existe? C'est vraiment une interrogation difficile à répondre aujourd'hui. Parce que lorsque je vois comment ça se passe au sein de l'opposition politique, comment les opposants sont traqués par des services, ainsi de suite, comment l'opposition n'a pas l'expression à l'Assemblée nationale, ainsi de suite, je me dis, nous faisons un recul pratiquement vers les totalitarismes. Vous savez, Mobutu, quand il a parlé, il a dit qu'il a fait, il a tenu son discours après des consultations populaires. Il a sillonné le pays tout entier. Il a parlé avec la population. Il a compris qu'il y avait cette nécessité-là de pouvoir démocratiser le pays. Et il a prononcé vraiment ces multipartismes intégral pour le pays. Et alors, j'établis un peu une comparaison par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que là, Mobutu était vraiment sérieux, très sérieux, même qu'il a pleuré, qu'il a fait couler les larmes. Il a compris qu'il y avait une rupture qui s'est passée en lui-même, en lui. Il y avait une rupture, mais il était vraiment obligé parce qu'il a compris que la population en avait besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants actuels de notre pays sentent que la population a besoin de cette démocratisation effective? Parce que 23 ans après, c'est pas quand même concevable que nous sommes en train de nous leurrer, nous sommes en train de pleurer, ainsi de suite. On organise les élections de la manière dont on les organise. Il y a le Parlement qui est installé et puis les députés n'ont pas la liberté d'expression. Aujourd'hui, l'actuel président de l'Assemblée nationale, il a fait, selon son slogan, je l'appelle bien slogan, les temples de la démocratie. Il fait de l'Assemblée nationale un temple de la démocratie, mais jusque-là, ce n'est qu'un slogan. Dernièrement, on a vu, et lors de la motion de censure rejetée, la motion de censure contre le gouvernement Matata rejetée, comment les opposants ne se sont pas exprimés librement. Il y a carrément un député, Pouela, qui s'est vu retirer la parole, carrément. Comme ça, et le temple de la démocratie pour Obeminaku, c'est pouvoir laisser l'opposition s'exprimer librement et puis permettre à la majorité de sanctionner négativement ce que l'opposition demande. C'est ça la démocratie. Mais lorsqu'on ne permet pas non plus à cette opposition de pouvoir s'exprimer à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de démocratie. Je ne voudrais pas qu'on puisse démarrer dans les slogans, ce n'est pas important pour le pays.
Merci Thierry Moukelekele. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision, jeudi Dia de Kambove au Katanga. La RDC compte aujourd'hui plus de 400 partis politiques qui se manifestent soit à la veille des élections, soit lors de certaines manifestations importantes. L'on parle même des partis politiques occasionnels. En ayant souhaité initialement un multipartisme à trois, le maréchal Mobutu n'avait-il pas raison?
Oui, je pense que le maréchal avait raison, mais néanmoins il y a eu un déficit communicationnel entre lui et les Aïrois de l'époque et l'entourage qu'il avait. Parce que si vous pénétrez bien le discours du maréchal, il a été en communion avec les Aïrois, donc le petit peuple quoi. Mais plus tard, c'est maintenant la classe politique. Souvenez-vous des conclaves et tout et tout. C'est un peu l'histoire qui veut se répéter avec les histoires de dialogue qu'on veut instaurer. C'est ce déficit communicationnel qui crée des frustrations et qui a créé des frustrations juste après que le maréchal ait fait son discours. Plus de 400 partis politiques, plusieurs partis politiques sont des partis politiques alimentaires. Des grands partis politiques. Et quand vous voyez dans l'ossature de nos partis politiques, nous n'avons pas 10 partis politiques costauds. Nous n'en avons pas. Mais les 400 alimentent les autres, que ce soit du côté de ceux-là qu'on dit majorité ou du côté de ceux-là qu'on dit opposition. Ils s'alimentent et c'est au détriment de la population. Je rejoins l'idée à laquelle où il faille éviter que le Parlement soit une caisse de résonance. Ça doit être le reflet de la population. Ce qui se passe actuellement dans ce Parlement, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici sur terrain. Rien du tout. Et moi, je pense que tout le monde se souviendra qu'après les élections, le président de la République n'avait pas su avoir une majorité. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est sur le plan numérique qu'on pense que le chef de l'État a une majorité. Mais sur le plan interne, le chef de l'État n'a pas de majorité. Or, aujourd'hui, ayant lancé la philosophie de sa politique avec les chantiers, la modernisation et tout, c'est le Parlement qui devait faire la politique de cette philosophie et le gouvernement donner les moyens de cette politique. Mais ça fait une année. Oui, ça fait une année. Une année durant, rien n'est fait. Et maintenant, les soutiens de ceux-là qui ont accompagné Joseph Kabila à sa réélection, la population n'est sans rien. Et le danger, c'est quoi, si le chef de l'État peut nous comprendre? Il est passé avec 8 millions de voix. Tshisekedi est passé avec 5 millions de voix. Mais au moment où nous vous parlons, c'est lui, Kabila, qui perd davantage et qui est en train de rejoindre... Ça dit que aujourd'hui la notoriété même du président de la République est remise en cause.
Pourquoi?
C'est pourquoi vous voyez.
Pourquoi?
La gestion. Ça dit que la gestion, le gouvernement ne gère en rien le social de la population. A réélu Kabila en garantie du social. Mais ça fait une année, ce social ne vient toujours pas. Alors c'est sur base de ça que quand nous sommes sur le terrain, les indicateurs nous témoignent que Joseph Kabila est en train de perdre davantage. Et quand vous voyez la partie Est, elle est en guerre. Ça fait déjà une année. Ici, dans le Katanga, on pensait que la décentralisation viendrait un peu plus rapidement pour que les gens se retrouvent. Vers le Bas-Congo, c'est la même chose. Dans le Kasaï, n'en parlons pas. Le Kasaï, certes, c'est le fief de l'opposition, mais si jamais la majorité pouvait bien travailler et faire que la philosophie du chef de l'État soit appliquée à la lettre. Je pense que même au Kassai, le chef de l'État n'aurait pas de problème.
Merci Thierry.
Aujourd'hui, je chute par là, aujourd'hui nous nous retrouvons dans ce problème, 23 ans après, la démocratie n'avance pas. Et nous sommes en train de prendre un virage très décisif entre les années 61 et 63, si vous relisez l'histoire.
Merci.
Différents États indépendants qui naissaient.
Merci Thierry Mukelekele. J.R. Mokolo, je rappelle que vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. 23 ans après le discours du maréchal Mobutu, il y en a qui disent que le processus de démocratisation du Congo fait du surplace. Et ils attribuent cela au fait que le peuple qui est les souverains primaires, ne s'est pas approprié cette démocratie.
Bon, pour que le peuple s'approprie cette démocratie, il faut que ce peuple-là soit formé. Quelqu'un a dit que la démocratie ne se crée pas au journal officiel. C'est pas parce que nous appelons République démocratique du Congo que nous sommes véritablement démocratiques. Rappelez-vous, à l'époque des deux Allemagnes, nous avions une Allemagne fédérale et l'autre, elle était République démocratique d'Allemagne. Mais il y avait une dictature qui régnait dedans. L'AFDL est arrivée, Alliance des forces démocratiques. Quand Mouzé prend le pouvoir, il met entre parenthèses tous les partis politiques et c'était pratiquement un parti unique, l'AFDL, CPP, tout ça, qui s'est instauré. Je voudrais un peu revenir sur l'émotion du maréchal qui a versé les larmes. Je ne sais pas si c'était les larmes du crocodile, mais j'ai comme l'impression que le maréchal, étant visionnaire, savait dans quelle destination le pays était en train d'être conduit. Parce qu'il dit, on va tenter de nouveau l'espérance du multipartisme. Parce que si on a mis un peu en temps le multipartisme, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le multitude des partis politiques, le pays avait du mal en tout cas à être gouverné.
Mais pourquoi ailleurs ça réussit? Pourquoi ça ne peut pas réussir?
C'est une question de culture politique. Voyez un peu ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. La majorité dit non, on ne fera jamais des cadeaux à l'opposition. Donc on se rend compte que les députés ne sont pas les représentants du peuple. C'est des gens qui représentent pratiquement leur propre famille politique. Et même si le Premier ministre fait très mal le travail...
Donc aujourd'hui, 23 ans après le lancement de ces processus démocratiques, on ne peut pas dire que le peuple exerce effectivement son pouvoir au travers de ses représentants qui sont dans les différentes institutions du pays.
Bon, ces représentants, c'est pendant les élections que les gens viennent pratiquement courtiser la population. Et il faut voir comment les gens votent dans ces pays. On ne vote pas idée, on ne vote pas idéologie, on ne vote pas programme. On vote parce que c'est quelqu'un de mon terroir, de ma tribu. On vote parce qu'on m'a donné un polo, on m'a donné de l'argent. Et donc c'est un peu ce manque d'équité politique. Je dirais, sous le plan des libertés fondamentales, par exemple, on se rend compte que les manifestations publiques posent problème. Et surtout quand ce sont des opposants, par exemple, qui veulent manifester, il faut voir comment est-ce qu'on étouffe cette marche-là. Donc il y a des avancées, oui, certes. À la télé, on peut passer, on peut parler, tout ça. Mais sous le plan de l'état des droits, ça pose problème. Je donne seulement un exemple. On arrête quelqu'un aujourd'hui à minuit, ça ressemble pratiquement à un enlèvement. Et le lendemain, ce sont les cours et tribunaux qui avalisent cet enlèvement, la dissuteur. On ne respecte pas les règles du droit dans notre pays.
Merci. Ambroise Mamba, certains experts justifient les difficultés, toutes ces difficultés que connaissent les processus démocratiques de la RDC, au fait que c'est un processus qui est souvent jonché de beaucoup de problèmes. Ils évoquent même l'exemple des vieilles démocraties qui ont connu des problèmes plus que les nôtres. Et donc, ce qui nous arrive n'est pas nouveau.
Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un problème d'hommes, tout simplement. Il y a des hommes forts en RDC, des hommes forts qui ne veulent pas se soumettre aux règles, tout simplement. Lorsque J.R. parle d'une culture politique, c'est vrai, mais moi je pense que c'est un problème d'hommes. Les hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas se soumettre aux règles. Ils sont au-dessus de la loi au lieu d'être en dessous de la loi. Donc, ils ne veulent pas se soumettre à la loi. Voilà pourquoi ils font pratiquement ceci. Ils oublient la loi et ils imposent leur propre autorité sur terrain. Ils empêchent la population à pouvoir manifester. Vous avez appris l'histoire des 12 membres de l'association de défense des intérêts au Bandundu qui ont été, pratiquement parce qu'ils ont projeté une manifestation non organisée, ils sont condamnés à 20 ans de prison.
20 ans de prison pour avoir manifesté.
Ils n'ont même pas manifesté, ils ont projeté une manifestation qui n'a pas eu lieu, arrêté puis condamné à 20 ans de prison. Voilà comment les hommes forts de la RDC, ceux qui gèrent, les hommes forts, ils ne veulent pas se soumettre aux règles de la démocratie. Mais donc, si on veut se soumettre aux règles de la démocratie, il suffit seulement qu'il y ait une volonté politique. Il s'agit de la volonté politique. Et en cas de volonté politique, on va y arriver. Ce n'est pas difficile, c'est facile. Mais lorsqu'on ne veut pas se soumettre, on va retomber dans les mêmes travers et ça ne sera pas intéressant pour le pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Alain Ngoï était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation. Sous la supervision de Pelekipela Mondo, devant ses micros Guimaté. La rediffusion de l'émission, c'est demain à 4h15 de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.